se l'est souvent dit ici, bien sûr, ce qui est premier, c'est toujours l'intention de me mettre en prière, décider, choisir de prier, peut-être choisir de me donner un temps pour cela, un lieu particulier, et puis d'y être fidèle. Alors, ça, c'est ce qui dépend de moi, j'allais dire, dépend de ma nature, mais ce qui se vivra dans ce temps consacré à la prière, à l'oraison, avouons-le, ça nous échappe beaucoup. Voilà. Et c'est bien sûr l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. C'est un petit peu cela que j'aimerais aborder avec vous cet après-midi, l'œuvre de l'Esprit-Saint dans la prière. Je vous permets simplement de relire les deux versets de Romains 8, que vous avez entendu tout à l'heure dans la prière. Ce sont un petit peu voilà, les versets sur lesquels je m'appuie cet après-midi. L'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. C'est un passage de l'Écriture romaine que nous connaissons tous par cœur, ou presque. Et pourtant, je pense qu'il y a de quoi épuiser encore cet après-midi un nouvel enseignement. Car nous ne savons pas prier comme il faut. Les choses sont très claires. On est tous novices dans la vie de prière. Que personne ici rougisse en se disant, effectivement, je suis peut-être le seul parmi nous qui ne sait pas prier. Non, on est tous dans cette incapacité naturelle à savoir prier. Et comme le dit Paul, c'est bien l'Esprit qui vient à notre secours. Il vient au secours de notre faiblesse. Mais peut-être que le premier élément, c'est déjà d'accepter notre pauvreté. D'accepter que nous ne savons pas prier. Si on veut se laisser enseigner par l'Esprit-Saint, il faut qu'on lui laisse de la place. Hein. Tous les élèves dont vous avez la charge, dames, professeurs, voilà, autour de moi, étaient déjà arrivés et pleins d'eux-mêmes et pleins de connaissances ou en tout cas de certitudes. Il n'y aurait pas beaucoup d'espace pour l'enseignement que vous avez à leur donner. Voilà. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Il faut d'abord accepter notre pauvreté, notre incapacité naturelle à savoir prier et laisser le Seigneur, par la grâce de l'Esprit-Saint, nous enseigner à prier. Juste encore en guise d'introduction, revenir un petit peu sur le choix de l'apôtre Paul qui nous accompagne à travers ces deux versets cet après-midi. L'enseignement de Paul sur la prière est assez riche, ça vaut peut-être la peine aussi de s'y plonger un petit peu plus, peut-être de relire ensemble les lettres de Paul, en tout cas les passages qui parlent de la prière. Mais j'aimerais avant tout faire remarquer que ce n'est pas un hasard si toutes les lettres de Paul sont introduites et se concluent par l'expression d'une prière. J'ai déjà été attentif à cet élément-là. Ce n'est pas forcément le cas quand on écoute simplement les lettres de Paul dans la liturgie, parce que c'est souvent simplement un passage qui nous est proposé. Il est rare peut-être qu'on lise une lettre en entier. Voilà. Mais si on y est attentif, Paul a cette belle habitude de commencer et de conclure ses lettres par une prière. Au début, souvent une prière plutôt d'action de grâce, de louange, et puis à la fin plutôt une prière de vœux, voilà, que la grâce de Dieu guide le chemin des communautés auxquelles il s'adresse. Bien sûr, c'est aussi à chacun de nous que Dieu s'adresse à travers la bouche de Paul, donc ces prières, elles sont aussi bonnes pour nous. On ne perdrait pas notre temps si on travaillait personnellement ou en fraternité les lettres de Paul et à travers ces expressions de la vie de prière. Et entre la formule d'ouverture, d'abord je remercie mon Dieu par Jésus-Christ et le souhait final, la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, et bien c'est tout le contenu des lettres de Paul qui se déploie. Tout le contenu théologique, missionnaire, catéchétique, qui se déploie mais toujours encadré par la prière. La prière de l'apôtre Paul manifeste une grande richesse. Richesse dans les diverses formes de prière qu'il présente, qui vont de l'action de grâce à la bénédiction, de la louange à la demande et à l'intercession, de l'hymne à la supplique. Il n'y a pas fait de traité sur la vie d'oraison. Voilà. Ne cherchons pas ça chez l'apôtre Paul. Mais malgré tout, voilà, Paul est bien sûr un homme d'action, un missionnaire, mais c'est aussi un homme de prière. Donc il y a toute cette gamme d'expressions qui montrent comment la prière implique et pénètre toutes les situations de la vie. Il y a quelque chose d'incarné dans la prière de Paul qui peut peut-être nous rejoindre, nous, chrétiens du troisième millénaire, voulant répondre à l'appel à la sainteté et à l'évangélisation. Donc peut-être puisons chez Paul aussi cette incarnation de la vie de prière, de l'enseignement de Jésus sur la prière, qu'il a lui-même assimilé. Un premier élément que l'apôtre veut nous faire comprendre est que la prière ne doit pas être simplement vue comme une bonne œuvre qu'on accomplit pour Dieu. Voilà, pour faire plaisir à Dieu, voilà, on ferait un petit effort et on se mettrait à la vie de prière. Comme une bonne action. Voilà. La Béa Scout, voilà, aujourd'hui j'ai prié, donc Jésus va être content, c'est très bien. Bon. La prière pour Paul, c'est d'abord un don. Le fruit de la présence vivante, vivifiante du Père et de Jésus-Christ en nous. La prière est un don. Ce n'est pas ma bonne action, ce n'est pas ma propre qualité. C'est un don et c'est le fruit de la présence du Père et du Fils en moi. Et c'est là que je rejoins le verset 26 de Romains 8. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons que demander, il faut prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et on sait à quel point cette parole est vraie. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. On veut prier, mais parfois Dieu nous paraît loin. On n'a pas les paroles, on n'a pas le langage pour parler à Dieu, ni même la pensée. Vincent, vous avez déjà un petit peu invité à parler le langage de Dieu. Comme on parle l'anglais pour s'entretenir avec nos amis Rosebif, voilà, il faut bien parler la même langue pour les comprendre. Voilà, il faut leur parler. Bon. Ben, pareil, à Dieu, c'est pareil, il faut parler le langage de Dieu. Il faut qu'on apprenne la langue de Dieu. Nous pouvons seulement nous ouvrir, mettre notre temps à la disposition de Dieu. Attend qu'il nous aide lui-même à entrer dans un vrai dialogue. L'effort de la prière, c'est celui simplement de se consacrer à la prière. Le reste du travail, c'est l'œuvre du Seigneur. Paul dit bien, ce manque de parole, cette absence de parole, mais aussi ce désir d'entrer en contact avec Dieu. Voilà précisément une prière que l'Esprit Saint non seulement comprend, mais que l'Esprit Saint porte et interprète auprès de Dieu. L'Esprit Saint devient presque notre interprète auprès de Dieu. Notre faiblesse devient justement, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, une véritable prière. Ça, je vous disais tout à l'heure, peut-être le premier pas, c'est de reconnaître notre faiblesse, notre incapacité. J'arrive pas à prier ? Ben, c'est super, t'as déjà tout compris. En tout cas, j'ai un terrain favorable pour que l'Esprit Saint puisse prier en toi. L'Esprit Saint est l'interprète qui nous fait comprendre à nous comme à Dieu, ce que nous voulons dire. J'aimerais bien prier, mais je ne sais pas comment il faut faire, je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Justement, tais-toi. Laisse l'Esprit Saint prier à travers toi. Dans la vie de prière, dans la vie d'oraison, plus encore que dans les autres dimensions peut-être de notre existence, nous faisons l'expérience de notre faiblesse. Nous faisons l'expérience de notre pauvreté. Nous faisons l'expérience de notre nature créée, et du coup de nos limites. Puisque nous sommes mis face à la toute-puissance et à la transcendance de Dieu. C'est normal que j'ai l'impression de perdre pied dans la vie de prière, parce que à la fois je me rends compte de la grandeur de Dieu, et puis de ma petitesse. Et puis alors là, disons, ça peut donner le vertige. Et plus on progresse dans l'écoute et dans le dialogue avec Dieu, pour que la prière devienne vraiment la respiration quotidienne de mon âme, plus on perçoit le sens de nos limites. Non seulement devant des situations très concrètes tous les jours, mais aussi dans notre relation avec le Seigneur. Lisez un petit peu la vie des grands saints. Pas les malins dans leur vie de prière. Hein. Ils disent pas, je suis déjà arrivé. Toutes les demeures qu'évoque Thérèse. Hein. Voilà. Bien souvent, nous font part de cette difficulté, de ce combat, de cette aridité de la vie de prière. Et c'est alors que grandit en nous le besoin de faire confiance à Dieu, de nous en remettre à lui, de nous abandonner à lui, de nous remettre toujours davantage à lui. Nous comprenons que nous ne savons pas prier. Donc, l'enjeu de l'enseignement Stop Comedy, c'est justement de, peut-être de nous rassurer. Parce qu'on peut se décourager en disant, ben voilà, c'est bien beau, on nous parle d'oraison, on nous fait miroiter un paradis, là, c'est les Bahamas là, dont on parle depuis des années. Et pour l'instant, je ne suis pas sorti de Trichterstein. Quoi. C'est super de voir les Bahamas, hein, mais quand on ne fait qu'en rêver ou en parler, ou on en voit des images furtives et puis qui disparaissent tout de suite, là on peut se décourager en disant, bah, je ne sortirai jamais de Trichterstein. Alors le but, c'est de dire, bah, tu es peut-être à Trichterstein, mais réjouis-toi d'y être déjà. Voilà. Puis accepte de laisser l'Esprit Saint t'embarquer jusqu'aux Bahamas. C'est pas par toi-même, avec tes seules propres forces, tes seules propres capacités, que tu vas y arriver. Bien sûr, il faut de la volonté. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, cet après-midi, laissons-nous rassurer par le Seigneur dans cette vie d'oraison qui, parfois, peut nous faire peur, ou pour l'instant, on n'en goûte pas encore les fruits, puis on peut se décourager. C'est l'Esprit Saint qui vient à notre aide, qui vient nous aider dans nos incapacités. C'est l'Esprit Saint qui éclaire notre esprit. C'est l'Esprit Saint qui réchauffe notre cœur, nous poussant alors à nous tourner vers Dieu. C'est même lui qui nous donne déjà le désir de nous tourner vers lui. C'est lui qui nous donne le désir de consacrer du temps. C'est lui qui nous donne le désir de vivre cette vie d'oraison. Dans le temps, on s'est imparti, mais aussi dans cette prière continuelle. Il faut vraiment qu'on y revienne souvent à la fraternité, je pense. Dans cette prière continuelle de l'Esprit Saint à travers nous, en nous, dans toutes nos activités quotidiennes. Pour Paul, la prière est surtout l'œuvre de l'Esprit Saint. Son œuvre dans notre humanité. L'Esprit Saint, il assume toutes nos faiblesses. Parfois, il les connaît mieux que nous, ou alors nous, on ne veut pas les voir. Donc, n'ayons pas peur, on n'a rien à cacher à l'Esprit Saint. Donc, il assume notre faiblesse et il vient transformer nos faiblesses. Nos faiblesses d'hommes liées aux réalités matérielles. Et il nous transforme vraiment en hommes spirituels. C'est ça la divinisation, c'est ça répondre à l'appel à la sainteté. Pas par mes mérites, par mes bonnes actions. Mais c'est laisser l'Esprit Saint me transformer, me diviniser, faire de moi un saint. Dans la première lettre aux Corinthiens, Corinthiens 2, 12, 13, Paul nous dit « Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons non pas avec les discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. » En habitant notre fragilité humaine, en l'assumant, l'Esprit Saint nous change, l'Esprit Saint nous transforme, l'Esprit Saint nous ajuste, l'Esprit Saint nous ordonne et il vient intercéder pour nous et nous élève jusqu'à Dieu. C'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. Et donc notre union au Christ, c'est bien ça la sainteté, c'est bien ça la vie d'oraison, notre union au Christ se réalise par cette présence de l'Esprit Saint. Parce qu'il s'agit de l'esprit du Fils de Dieu et que nous sommes devenus fils. Saint Paul parle beaucoup de l'esprit du Christ, hein, l'esprit du Fils. Tout ça notamment dans Romains 8, hein, verset 9. C'est pas seulement l'esprit de Dieu, non, l'esprit du Christ, l'esprit de Jésus. C'est évident, hein. Si le Christ est le Fils de Dieu, son esprit est aussi l'esprit de Dieu. Ainsi, si l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ s'est fait proche de nous par le passé dans le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, bien, l'Esprit devient aussi un esprit humain. Et c'est comme ça qu'il peut nous toucher. On peut entrer dans la communion de l'Esprit Saint. C'est comme s'il disait non seulement que Dieu le Père s'est rendu visible dans l'incarnation du Fils. Voilà. Dieu se révèle dans l'incarnation du Fils. On l'a célébré il y a quelques semaines à travers la fête de Noël, voilà, la nativité. Dieu se révèle. Mais aussi que l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie et dans l'action de Jésus. L'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie et dans l'action de Jésus. De Jésus-Christ, qui a vécu, qui a été crucifié, qui est mort, qui est ressuscité. Paul le dit bien, nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il est avec l'Esprit Saint. C'est que l'Esprit Saint qui peut nous aider à faire cette profession de foi. Jésus est le Seigneur. L'Esprit oriente notre cœur vers Jésus-Christ. Il le paramètre à Jésus-Christ. De sorte que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Là aussi, pour citer Paul, hein, Galates 2:20. L'Esprit fait vivre le Christ en nous. Nous donne la vie même du Christ. Dans ses catéchèses sur les sacrements, réfléchissant notamment sur l'Eucharistie, saint Ambroise affirme « Celui qui s'enivre de l'Esprit est enraciné dans le Christ. » On peut s'enivrer de pont, on peut s'enivrer de plein de choses, mais on peut surtout s'enivrer du Christ. Pour être enraciné dans le Christ. Celui qui s'enivre de l'Esprit est enraciné dans le Christ. Celui qui s'enivre de l'Esprit est enraciné dans le Christ. Alors cette longue introduction pour arriver à trois conséquences pour notre vie chrétienne, notre vie de prière, lorsque nous laissons agir en nous, non pas l'Esprit du monde, comme dit Paul, mais l'Esprit du Christ, comme principe intérieur de toutes nos actions, comme moteur, comme énergie intérieure, de toutes nos actions. Première conséquence, avec la prière animée par l'Esprit Saint, nous sommes tout d'abord mis en condition d'abandonner et de surpasser toute forme de peur ou d'esclavage, en vivant la liberté authentique des enfants de Dieu. L'Esprit Saint réalise en nous finalement cette libération. Nous vivons notre exode, comme le peuple juif est libéré de la servitude de l'Égypte, eh bien Dieu, par la grâce de son Esprit Saint, nous libère de tout esclavage intérieur pour nous donner cette liberté des enfants de Dieu. Dans la prière qui alimente chaque jour notre être dans le Christ, dans une intimité croissante, nous nous trouvons dans la condition décrite par Paul dans la lettre aux Romains. Nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais le mal que nous ne voulons pas. Et c'est bien l'expression de cette aliénation de l'être humain, de la destruction de notre liberté à cause de notre condition d'être marquée par le péché originel. Nous voulons le bien que nous ne faisons pas et nous faisons ce que nous voulons pas, le mal. Pardon ? Alors, ce que dit Paul, voilà, c'est que le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. Mais on fait le mal.
Nous faisons le mal que nous ne voulons pas.
On ne voudrait pas. On ne voudrait pas. L'apôtre Paul veut vraiment faire comprendre que c'est pas avant tout notre volonté qui nous libère de ces conditions, ni même la loi, mais c'est l'Esprit Saint. C'est lui seul qui peut nous libérer. Et puisque où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, avec la prière, nous faisons l'expérience de la liberté donnée par l'Esprit. La vie de raison nous donne de faire l'expérience de la liberté. La vraie, hein? La pleine, l'entière. Une liberté authentique. C'est une liberté par rapport au mal, une liberté par rapport au péché, pour le bien, pour la vie, pour Dieu. Cette liberté de l'esprit. elle s'identifie jamais ni avec un certain libertinage, ni avec la possibilité de faire le choix du mal, mais plutôt avec les fruits de l'esprit. Oui. Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi, relisez Galates 5. Hein. C'est ça la liberté dont parle Paul. Cette liberté de l'esprit qui produit des fruits. Voilà la vraie liberté. Pouvoir réellement suivre son désir du bien. Le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que j'aimerais éviter, eh bien je le fais. L'esprit me permet de pouvoir réellement suivre mon désir du bien.
Oui, mais ma condition humaine fait que mon désir, il est, et je peux avoir le désir, mais des fois, humainement, je tombe dans le trou, je vais me relever, je vais avec le Christ, il va m'aider à me relever. Mais donc l'Esprit Saint, c'est finalement l'appel qui me permet de remonter ou...
Il peut aussi, je pense, m'éviter à tomber dans le trou.
Ouais.
Bien sûr que notre vie chrétienne est faite de chutes et de relèvements, et que le Seigneur se réjouit plus de nos relèvements que de nos chutes, qu'il oublie même. Hein. Mais je pense qu'on l'invoque aussi pour éviter ces chutes. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation.
Oui, c'est ça.
Et l'Esprit Saint vient me donner cette liberté pour essayer de suivre réellement ce désir de bien qu'il a mis dans mon cœur et de réaliser pleinement. Toi.
Oui. Puisque ce que je ressens à travers ce que tu dis, c'est que c'est toute mon imperfection, malgré tout. Parce que j'ai beau avoir... être chargé de l'Esprit Saint, j'ai pas cette. Je peux avoir un désir, mais la constance, j'arrive pas à l'avoir. Voilà.
Les conséquences du péché originel en vous.
Voilà, c'est ça. Hein, donc c'est pour.
C'est pas ça. C'est notre défense, l'Esprit Saint. C'est notre défense.
Une sorte de bouclier, ouais. Mais c'est bon, non, ça va.
Ça rejoint l'idée que
L'amour ne suffit pas.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, tu, bon, tu peux aller plus loin là.
Je peux prendre des exemples. Quelquefois, une maman, elle fait quelque chose envers son enfant parce qu'elle l'aime à fond, mais elle ne lui rend pas service. C'est mon exemple, est bon.
Comme ça, en fait, c'est de quel amour on parle, tu vois. Ça peut être effectivement, sans doute, des bons sentiments pour cet enfant, mais ce ne sera pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour lui non plus. Voilà, c'est ce que. Voilà. Qu'elle elle porte aujourd'hui, peut-être avec son lot de blessures, son lot de...
Elle veut lui apporter. Voilà. Bon.
Mais c'est pas forcément l'Esprit Saint, toi, qui agit à travers elle.
C'est son humanité.
Mais c'est justement passer à un autre degré, c'est laisser surnaturellement le Seigneur aimer à travers moi, et à ce moment-là, cet amour peut suffire. Enfin, heureusement, que c'est le seul qui peut me combler et qui ne disparaîtra jamais. Mais c'est dans cette docilité à l'Esprit Saint qui me permettra de suivre réellement la volonté du Seigneur, mon désir d'y adhérer, de faire le bien, réellement aussi vivre la joie des béatitudes, la joie de l'Évangile. Pouvoir réellement vivre la communion avec Dieu sans se laisser asservir par les circonstances qui nous attirent vers d'autres directions. Je reprends l'exemple de ma vie de prière. Je peux faire le choix de prier chaque jour une demi-heure. Bon, il y a parfois des combats intérieurs qui me découragent. Sans l'Esprit Saint, je ne peux pas être fidèle à cette détermination de la vie de prière. C'est alors, ce qui dépend de nous, c'est sans doute se déterminer, choisir. Voilà. Mais celui qui me donnera d'y rester fidèle, c'est l'Esprit Saint. Donc le bien qui est celui de cette fidélité dans la vie de prière, n'est que le fruit de l'Esprit Saint en moi, qui permet de vivre pleinement cette communion.
Mais il faut aussi
avec le Seigneur.
Invoquer l'Esprit Saint. Je veux dire qu'on est plein de bonnes résolutions. Je vais prier aujourd'hui, mais c'est notre volonté. Et qu'il faut aussi appeler l'Esprit Saint au début de chaque journée.
Sans cesse.
On ne peut pas lui faire un procès de ne pas nous aider si on ne l'appelle pas.
Pas cette procès à l'Esprit Saint.
On n'a pas aidé aujourd'hui.
Donc l'Esprit Saint me donne pleinement cette liberté des enfants de Dieu qui me permet de choisir Dieu. Pas être entraîné, détourné. On oublie bien que le péché, c'est ça, c'est rater la cible. Donc, pas être détourné de cette union avec le Seigneur. Deuxième conséquence, qui se vérifie aussi dans notre vie, quand nous laissons agir en nous l'Esprit du Christ, c'est que la relation avec Dieu devient tellement profonde qu'elle ne se laisse affecter par aucune réalité ou situation. Ma vie d'oraison me conduit à une telle union à Dieu qu'elle ne va pas être affectée par une réalité ou une situation. On comprend alors qu'avec la prière, on n'est pas libéré de l'épreuve ou de la souffrance. La vie de prière, la vie d'oraison, ce n'est pas une assurance vie qui fait qu'il ne se passera jamais rien de dramatique. Non. Mais, voilà, on peut vivre ces épreuves, vivre ses souffrances en union avec le Christ, avec ses souffrances, dans la perspective de participer aussi à sa gloire. Alors, ne cherchez pas chez moi une invitation à un certain dolorisme, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est que dans cette liberté des enfants de Dieu, je suis tellement intimement lié à Jésus que même l'épreuve, même la souffrance, je la vis unie à Jésus. Relisez Paul sur ce sujet-là. Évident.
Il y a aussi, sans lire Paul, il y a Christian Singer qui, dans le dernier fragment d'une vie bouleversée, d'une vie, je ne sais plus, il manque un mot, qui dit exactement.
Dernier fragment dans le voyage.
Dernier fragment dans le voyage, qui dit la même chose, enfin, qui l'écrit. Et ça rejoint ce que tu dis totalement, et elle parle d'ailleurs de l'Esprit Saint.
C'est le fruit de l'Esprit Saint dans ma prière, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ma vie qui me permet de dire ça. Pourtant, c'est... Souvent, dans notre prière, on demande à Dieu d'être libéré d'un mal physique ou spirituel. Et on le fait dans une grande confiance. Pourtant, on a souvent l'impression peut-être de ne pas être écouté, de ne pas être exaucé. Et on risque alors de se décourager et de ne pas persévérer. Seigneur, je t'ai demandé pourtant avec beaucoup d'insistance, j'ai été fidèle dans cette demande, et puis elle est juste. Voilà, pour reprendre ce que disait Bernard, voilà, pour le coup, la latitude, elle est juste. Hein, de demander d'être libéré. Pas désirer être esclave d'une souffrance. En réalité, il n'y a pas de cri humain qui ne soit pas écouté, entendu par Dieu. Et dans la prière constante, dans la prière fidèle, on comprend justement avec l'apôtre Paul que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Romains 8, 18. Chapitre 8 de Romains, il peut être relu ce soir avant de vous coucher. Hein. Les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Je le redis, la prière ne nous épargne pas de la souffrance et des épreuves. Au contraire même parfois. Hein. Nous gémissons nous aussi intérieurement, dit Paul, dans l'attente de la rédemption de notre corps. 8:24. Romains 8:24. Nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps.
La prière même de Jésus, excuse-moi, t'es plus tôt. La prière même de Jésus à Gethsémani.
Exactement.
C'est pour le passé, mais non.
Alors, ta volonté se fasse. Voilà. Il y a déjà cette union de Jésus au Père, bien sûr, qui permet de dire ça. Hein.
Je me permets juste un parallèle. Donc, pour la préparation au mariage, on parle des différents piliers. Mm-hmm. Ça rejoint tout à fait l'indissolubilité. C'est quoi qui arrive, je veux, mais avec la grâce de Dieu, rester fidèle, traverser toutes les épreuves, tout ce que je peux pas. Voilà.
Mm-hmm. Il en parle d'une certaine façon de prier, à laquelle on ne doit pas faire allusion, parce qu'on est impuissant vis-à-vis de certaines choses dans notre vie, et donc c'est la fatalité. Alors, on parle de l'intervention de l'Esprit Saint pour nous aider. On n'a pas le choix.
Alors, je ne dirais pas pour fatalité, parce que fatalité, je sens que je ne serais pas libre, toi.
C'est plutôt la fidélité.
C'est lui, là, voilà. Ben, je
sois.
Moi, finalement, ce que tu dis, l'exemple de Jésus à Gethsémani, c'est ça, quoi. Là. J'aimerais que cette coupe passe loin de moi, mais voilà, Seigneur, c'est ta volonté, tu m'as appelé, me voici, je viens. Voilà, c'est l'assumer, voilà, je pense que c'est ça. C'est assumer.
Là, en Isaïe.
Alors, pas tous en même temps. ça suscite des émeuves.
Il y en a pas une.
On va pas me laisser parler.
Qui tient premier?
Imaginez que Jésus est
refusé,
bien sûr.
Avec le micro.
Il n'y aurait pas eu de salut, donc on ne parlera pas de ça.
Je crois que le seul choix qui se pose à nous, hein, c'est l'acceptation ou le refus. Et justement, l'Esprit Saint nous permet d'entrer peut-être plus ou moins rapidement, plus ou moins progressivement, dans l'acceptation de la situation.
Là, je suis d'accord parce qu'on a cette facilité d'accepter.
Juste pour résumer ça, on a tous fait sans doute cette expérience face à une difficulté grande ou peut-être plus minime. Au moment où on l'accepte, il y a quand même une force nouvelle qui vient en nous et qui nous permet. Voilà. Et pour le coup, c'est pas simplement, pour moi en tout cas, une démarche humaine, mais il y a quelque chose effectivement de d'assumer ce qui m'est donné de vivre et de faire confiance à l'œuvre de l'Esprit Saint qui vient me donner cette force nouvelle pour vivre avec. Ceux qui ont soigné des malades autour de nous voient bien que quand la maladie n'est pas acceptée, lorsqu'elle n'est pas assumée, eh bien, voilà, même le corps a beaucoup plus de mal à se battre. Au moment où les choses sont vraiment assumées et acceptées, ben, y a une force nouvelle qui parfois peut nous aider. Alors, il y a sans doute des choses. Ce sont des mécanismes psychologiques que je ne nie pas, mais dans ma foi, je crois vraiment que l'Esprit Saint vient aussi nous donner cette force nouvelle. Comme je le dis, hein, la prière ne nous épargne pas les épreuves et la souffrance, mais nous permet de vivre et d'affronter ces épreuves avec une force nouvelle, avec la même confiance que Jésus, qu'on citait tout à l'heure, qui, selon la lettre aux Hébreux, au jour de sa chair, a présenté avec une violente clameur et des larmes des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et était exaucé en raison de sa piété.
Les épreuves.
Hébreux 5, 7. C'est exactement ce qu'on décrivait tout à l'heure. La réponse de Dieu le Père à son Fils, à ses cris, à ses larmes, n'a pas été une libération de ses souffrances. Pas une libération de la croix. Pas une libération de la mort. Donc, hein, effectivement, c'est un peu rude ce que je t'ai proposé, on va trouver autre chose, tu vas faire une poterie, ça va sauver le monde. Voilà. Mais non, voilà, il n'y a pas. Mais il a exaucé la prière de Jésus de manière encore plus grande. Une réponse beaucoup plus profonde, peut-être. À travers la croix et la mort. Dieu répond par la résurrection de Jésus. Par une vie nouvelle. Ce que les hommes voulaient faire, c'est tuer Dieu. Ce que Jésus entrevoit à Gethsémani, c'est la souffrance et la mort. Voilà, c'est évident. Il dit ben voilà, que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté se fasse. Et le Père vient donner une plus grande réponse encore, à travers la résurrection, à travers la vie. Voilà. En voulant tuer Dieu, eh bien, Dieu donne la vie. La réponse est disproportionnée, bien plus grande peut-être que la question initiale. La prière animée par l'Esprit Saint nous porte, nous aussi, à vivre chaque jour le chemin de notre vie avec son lot d'épreuves et de souffrances. Dans une grande espérance, dans une pleine espérance. Dans la confiance en Dieu qui répond comme il a répondu à son Fils. Si nous sommes fils et filles bien-aimés du Père, si nous sommes co-héritiers avec le Christ, nous sommes frères et sœurs de Jésus, c'est la vocation de notre fraternité de Jésus, c'est pour partager la même vie, la même gloire. Donc ce qui est bon pour Jésus est bon pour nous. C'est le premier de cordée, c'est tout. Et il nous entraîne tous avec lui, si on vit dans cette espérance et dans cette confiance. Donc, la deuxième conséquence de la vie de l'Esprit-Saint dans la prière, c'est que, quelles que soient les difficultés, eh bien, rien ne peut m'enlever cette union à Dieu. Mon union à Dieu n'est pas altérée par les souffrances, les épreuves que je peux vivre par la grâce de l'Esprit-Saint. Il me donne de rester bien uni à lui. Troisième et dernière conséquence troisième point, la prière du croyant s'ouvre aussi aux dimensions de l'humanité et de tout le créé. Assumant ce que dit Paul au verset 19 du même chapitre 8 des Romains, assumant la création en attente qui aspire à la révélation des enfants de Dieu. Ça signifie que par la prière, soutenue par l'Esprit du Christ, qui parle à l'intime de notre cœur, ne reste jamais fermée sur elle-même. La prière ne reste jamais fermée sur elle-même. Elle n'est jamais seulement une prière pour moi. Mais elle s'élargit au partage des souffrances de notre temps, aux souffrances des autres. Ma prière par la grâce de l'Esprit-Saint devient intercession pour les autres. Et me libérant de moi-même, elle devient vraiment un canal d'espérance pour toute la création. Expression de cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint, qui nous a été donné au jour béni et glorieux de notre baptême. L'Esprit-Saint vient comme me rendre solidaire, vient de toutes les souffrances des hommes et du monde, de la création. Non seulement la prière par l'Esprit-Saint me fait grandir en communion avec Dieu, mais aussi en communion avec mes frères et sœurs. Et ceci est justement le signe d'une véritable prière, qui n'aboutit pas en nous-mêmes, mais qui nous ouvre aux autres. Et qui ainsi me libère et participe à la rédemption du monde. Le monde a besoin de ma prière. Donc, Paul nous enseigne que dans notre prière, nous devons nous ouvrir à la présence de l'Esprit-Saint qui prie en nous par des gémissements inexprimables pour nous amener à adhérer à Dieu, à nous unir à Dieu, à vivre pleinement cette communion avec lui, de tout notre cœur, de tout notre être. L'Esprit du Christ devient alors la force de notre faible prière. C'est l'Esprit qui devient la force de notre faible prière, la lumière de notre prière éteinte, le feu de notre prière aride, et nous donne cette vraie liberté intérieure, nous enseignant à vivre en affrontant les épreuves de l'existence, dans l'assurance que nous ne sommes pas seuls, que nous ne serons jamais seuls. Nous ouvrons aux horizons de l'humanité, de la création qui gémit en travail d'enfantement. Ça va pour ces trois conséquences ? Alors en lisant, j'aborde la conclusion déjà, en lisant Romains 8, 26, 27, je me suis quand même demandé si on pouvait découvrir ce que l'Esprit-Saint dit dans ses gémissements ineffables. Si on pouvait découvrir la manière dont il prie en nous, bien on aurait découvert un grand secret sur la vie de prière. Hein. Voilà. Il n'y a pas de prière plus parfaite que celle de l'Esprit-Saint en nous. Donc, est-ce qu'on peut chercher quelle est cette prière? Quels sont ces gémissements ineffables? Et la réponse qui m'est venue, c'est que c'est possible. C'est que c'est clair. L'Esprit-Saint qui prie en chacun de nous, de cette manière indescriptible, est le même Esprit-Saint qui a prié de manière claire et ouverte dans la Bible. Donc, comme il peut y avoir deux manières différentes et contradictoires de prier, il suffit d'aller à l'école de la Bible, de la parole de Dieu, pour savoir comment l'Esprit-Saint prie et comment il nous apprend, nous-mêmes, à prier. Alors, je vous invite à faire, dans les jours peut-être qui séparent notre prochaine rencontre, faire un petit pèlerinage dans la Bible, à travers les grands priants de la Bible, pour voir comment ils priaient, pour voir comment l'Esprit-Saint inspirait la prière, comment l'Esprit-Saint priait en eux. Alors j'ai proposé quelques pistes, mais elles ne sont pas du tout exhaustives. Hein. J'ai mis 8, la prière de Moïse, la prière d'Élie, la prière de Tobie, de papa hein, avec un T, la prière de Tobie, le fils, avec Sarah, prière chère à certains ici, la prière du psaume 102, la prière de Siméon, la prière de Jésus, quand même incontournable, et la prière de Marie. mais ça peut être d'autres passages. Il ne s'agit pas forcément de visiter les 8, mais peut-être que si au moins chacun de nous en visitait un d'ici la prochaine rencontre, et puis vraiment d'essayer d'être attentif à la manière dont l'Esprit Saint habite la prière de ses priants. Ça peut être aussi d'autres, hein, peut-être qui vous viennent plus spontanément, c'est ceux qui me sont venus comme ça, de manière un petit peu générale, mais voilà, une invitation vraiment à faire au moins l'expérience une fois d'aller à l'école de la parole de Dieu pour voir comment est-ce que l'Esprit Saint prie dans le cœur de ses grands priants. J'aimerais juste voir avec vous, par exemple, la prière de Moïse. En Exode 32, 7, 14. Juste pour voir un petit peu comment ça se passe avec Moïse. Pour que peut-être mon invitation soit plus claire, plus explicite. Exode 32, 7, 14. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple. C'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur et dit, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qui les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre ? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants et il sera leur héritage à jamais. » Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Moïse, en fait, c'est plus un homme de prière qu'un homme d'action. Hein. Il passait beaucoup de temps en prière. Il a même construit une tente pour ça, hein, pour entrer chaque jour et être seul avec le Seigneur. Son oratoire, sa chapelle, sa cathédrale. Bon. Et donc un jour, il se trouve sur la montagne. Il a passé 40 jours, 40 nuits dans la montagne, en prière, dans le jeûne. Et lorsque le Seigneur lui apparaît, il dit, « Vite, descends, parce que ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a construit un veau d'or. Voilà. Ton peuple s'est corrompu, il m'a renié. » Étrangement, Moïse ne se hâte pas à descendre de la montagne pour aller voir ce qui s'est passé exactement. Il entre en dialogue avec Dieu. Il lui dit, « Seigneur, au contraire, c'est ton peuple. » Vous avez entendu, j'ai insisté un peu sur les tons parce que c'est très important. Hein. « C'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte avec ton bras étendu. » Voilà, ne l'oublie pas. Je te rappelle que c'est ton peuple. Et lorsque les rabbins font l'exégèse de ce texte, ils ont bien compris ce que Moïse voulait dire. Lorsque le peuple est fidèle, c'est ton peuple, Seigneur, c'est bien, ils sont gentils, donc c'est le tien, mais quand ils ont la nuque raide et qu'ils commencent à construire des veaux d'or et puis à te renier, parce que tout d'un coup, c'est le mien. Voilà, donc, ça ne peut pas marcher, Seigneur. Voilà, ça reste ton peuple. Alors, en fait, c'est Dieu qui a recours un peu à ce petit stratagème, une petite séduction, hein. Laisse-moi libre de détruire, d'exterminer ce peuple infidèle et je vais te faire de toi un peuple beaucoup plus nombreux. Voilà, toi, je te garde, puis les autres, je vais les noyer comme avec Noé, voilà, puis je vais reconstruire du neuf avec toi. Et Moïse, lui aussi, il répond par un petit chantage. Voilà. Seigneur, tu ne peux pas faire ça parce que les peuples aux alentours diront que tu n'es pas, t'as pas été capable de mener ce peuple vers le pays que tu avais promis à leur père. Et on sait bien donc que dans ce petit chantage, Dieu va se laisser attendrir et il va abandonner son projet d'exterminer son peuple.
C'est comme ça que ça marche.
C'est justement ce que voulait Dieu. C'était la volonté de Dieu que Moïse en arrive là, dans sa prière. Moïse intercède. Moïse intercède. Il se met du côté du peuple, en fait, contre l'intention meurtrière de Dieu. Et après, lorsqu'il sera devant le peuple, eh bien, la rage, la colère, le zèle de Moïse pour le Seigneur éclatera. Hein. On se souvient que voilà, c'est même pas très content quand il descend la montagne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière chrétienne est libre. Elle permet à Moïse de parler librement à Dieu. Il y a plusieurs, bon, finalement, moi, ma situation est plutôt peinarde, dans tous les cas, je reste vivant, donc... voilà. Dites, oui, ça me rendra service, parce que c'est quand même un petit peu lourd, là, ce peuple à trimballer dans le désert. Non, il intercède, parce qu'il est complètement dans cette liberté, et il ne veut pas... La prière ne rend pas esclave. Voilà, donc un exemple de Moïse. Bon, on en a un autre, hein, pour finir de savoir s'il y a des justes dans une certaine ville. Enfin, voilà. Ça, c'est Abraham, c'est pas Moïse.
C'est Abraham
qui négocie un peu de la même manière. Voilà. Mm-hmm. De la même manière. Bon, on peut aussi regarder la prière d'Abraham. Donc, la bonne nouvelle de la prière, c'est qu'après avoir contemplé sans doute ces prières bibliques, hein, ces prières des grands priants de la Bible, on ne ressent pas simplement un devoir de la prière. Voilà, comme on doit faire son devoir dominical ou voilà, son devoir conjugal. Voilà. Tu as vu comment on prie dans la Bible, maintenant imite. Voilà. C'est ça l'invitation qui nous est adressée. Tu as vu comment l'Esprit-Saint a habité la prière des grands priants dans la Bible, maintenant fais de même. Fais de même. Laisse-toi habiter par l'Esprit-Saint. Et puis, je vais dire, c'est même un peu plus que ça, parce que là, ce serait encore réducteur. C'est de se dire surtout que la prière est un don, une grâce, avant d'être un devoir. Donc, c'est quelque chose à accueillir. Mais à l'école, de ces grands priants, ça peut peut-être être parfois plus facile. La prière chrétienne ne dépend pas de ce que nous avons sur les lèvres. Belles paroles, belles formules qu'on pourrait... présenté au Seigneur. Mais elle dépend de ce qui est dans notre cœur. Ça change tout. C'est pas une créature qui parle à son Seigneur qui est à l'autre bout du fil. Hein. La prière chrétienne, c'est l'Esprit qui prie en nous. La preuve de ça est cachée dans l'expression « Abba Père ». L'Esprit Saint, il n'est pas engendré par le Père. Hein. Petit point de théologie et de catéchisme... C'est juste pour remémorer un petit peu les choses et remettre dans l'ordre ce qu'on peut dire sur la Trinité. Hein. L'Esprit-Saint n'est pas engendré par le Père. Seul le Fils, seul Jésus est engendré par le Père. L'Esprit, lui, procède du Père. Alors, comment est-ce que l'Esprit-Saint peut s'écrier « Abba Père » ? C'est un peu schizophrénique hein, comme truc. Hein. Parce que justement, c'est l'Esprit du Fils. Il procède du Père et du Fils. C'est l'Esprit du Fils. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit du Christ qui continue la prière de Jésus. Si je peux dire « Abba Père » par la grâce de l'Esprit-Saint qui est en moi, c'est parce que je vis de l'Esprit du Fils, l'Esprit de Jésus. Donc on a en nous cette source jaillissante de prière. Ne cherchons pas ailleurs. Certains visitent tous les pays possibles et imaginables, font toutes les expériences spirituelles possibles et imaginables. Cette source, elle est en nous. Comme ces sources souterraines dont on parfois en découvre l'existence et qui donnent des puits voilà, ici ou là. Cherchons cette source qui est en nous. Elle est déjà en nous. Et c'est... sans l'Esprit-Saint...
Comme je vais juste de rebondir et de prendre la balle au vol, c'est un peu ce que disent aussi les charismatiques. Si les charismatiques ont beaucoup insisté sur l'Esprit-Saint, c'est aussi en lien avec ce que tu dis.
Alors, heureusement que... L'Esprit-Saint n'est pas la propriété privée des charismatiques, mais qu'on est tous charismatiques, c'est ça, voilà. On vit tous de l'Esprit-Saint, mais effectivement, je vous le rappelle depuis un peu plus de 50 ans maintenant, on a peut-être... c'était un peu le parent pauvre de notre vie de prière, le parent pauvre peut-être de la vie de notre Église. Donc, merci à eux, ils sont tout à fait membres et solidaires. Et donc, voilà, merci à eux de nous rappeler que cet Esprit-Saint est bien en nous. Sans l'Esprit-Saint, la prière est du bavardage. Évident. La prière dans l'Esprit-Saint est une lumière qui illumine tout. L'Esprit-Saint vient renouveler ma prière. C'est vraiment le vœu que je formule pour chacun de nous, que l'Esprit-Saint renouvelle notre prière. Alors, oui.
Attends, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Quand tu dis cette source est en nous, tu parles de Dieu, tu parles de l'Esprit Saint. Tu peux me mettre sur les rails là. Alors, j'ai un petit problème.
Bien sûr que c'est Dieu qui est en moi.
Bon, non, mais c'est bon.
Mais
tu me rassures.
Qui me rend,
c'est moi, ça fait,
qui
ça
rend
me rassure.
Active cette présence de Dieu, c'est l'Esprit Saint.
Voilà.
Chacun son job. Hein.
Voilà. Oui, mais c'est important.
Donc je. Vraiment, je nous exhorte à inviter l'Esprit Saint dans notre prière. Valérie nous le rappelait tout à l'heure. Hors de question de commencer un temps de prière sans invoquer l'Esprit Saint. Hors de question de commencer n'importe quelle activité de notre quotidien sans invoquer l'Esprit Saint.
C'est pas grave.
On tond le gazon, invoquons l'Esprit Saint. Quand on va au travail, invoquons l'Esprit Saint. Ça rendra pas meilleur nos plats, ça ne permettra pas de couper le gazon plus vite ni de faire le travail plus rapidement. Mais c'est vraiment l'Esprit Saint qui agira à travers nous. Invoquons sans cesse l'Esprit Saint. Et comme cette source continuelle, eh bien, l'Esprit Saint viendra irriguer toute notre vie. Et il nous permettra de rentrer dans cette prière continuelle. Là aussi, ça nous libère peut-être de certains poids de culpabilité. Si on sait que l'Esprit Saint prie continuellement en moi, eh bien, je n'ai qu'à le laisser faire. Ce n'est pas à moi de prier continuellement. J'ai simplement à prendre conscience que l'Esprit Saint prie en moi et qu'il fait de ma journée une prière continuelle. Que je puisse surfer sur la vague de l'Esprit Saint qui est en moi.
Mais ça nous laisse pécheurs quand même. Je resterai pécheur, je continuerai à faire les péchés et je continuerai à faire le mal.
J'aimerais l'Esprit Saint.
Tu n'es pas la Vierge Marie, Bernard. Tu es la Vierge Marie. Pas la Vierge. Là. Mais dans l'éternité, ce sera comme ça.
Tu seras la Vierge Marie.
On sera
en attendant. Donc, invitons l'Esprit Saint dans notre prière. Allons puiser dans la parole de Dieu. Voilà, ces attitudes des grands priants. Essayons de voir comment l'Esprit Saint prie. Qu'est-ce que c'est que ces gémissements ineffables que l'Esprit Saint produit dans le cœur des grands priants et que nous pouvons nous-mêmes accueillir comme un don. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. N'oublions pas cette phrase. Peut-être qu'elle peut habiter notre prière dans un instant. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Alors, tâchons de faire travailler l'Esprit Saint en nous. Il s'agit moins de faire que de se laisser faire. Laissons faire l'Esprit Saint à travers. Amen.
On ne peut plus apprécier la gratuité.
Non.